Bonsoir. Merci du coup tout le monde d'être là. Alors je vais essayer de croiser rapidement les questions de travail social et de contrôle des populations, plus particulièrement des personnes étrangères, et du coup de les mettre en perspective avec, pour en retirer finalement les éléments d'un point de vue qui pourrait être celui de l'ANAS, du coup l'Association nationale des assistants de services sociaux. Alors, pour mener cette réflexion, moi j'ai fait le choix de dégager des perspectives historiques sur les rapports entre le travail social et le contrôle des populations, et d'essayer d'en tirer quelques conclusions, peut-être un tout petit peu moins pessimistes, je l'espère, que Julia, et en même temps. Alors, je vais commencer par rappeler un vieux concept qui est celui du droit d'asile dans les églises chrétiennes. Et je trouvais intéressant de repartir de celui-là parce que il me semble être vraiment le corollaire de l'accueil ensuite en service social. Et je vais commencer mon propos par la suite, enfin ensuite par du coup la question de l'occupation, qui me semble être une période extrêmement complexe. Pour dire qu'à cette époque, les assistantes sociales, alors que Pétain appréciait beaucoup, elles alternent finalement, enfin en tout cas pour certaines, une activité qui est quotidienne, souvent un travail pour le régime de Pétain, et puis le soir peut-être des activités clandestines. Alors, par exemple, elles utilisent des organisations telles que l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, qui existe encore aujourd'hui. Elles créent des initiatives comme le réseau Garel, qui servait à cacher des enfants en les plaçant dans des familles ou en aidant d'autres familles à passer la frontière. On n'est pas sur les étrangers, hein. Là on vise une population qui est essentiellement juive, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est la question de l'autre en fait et de l'altérité face au pouvoir. Alors, durant cette période, c'est évident hein, que, c'est pas si beau que ça. Toutes les assistantes sociales ne sont pas à cacher des enfants la nuit. Et du coup, il y a quand même toujours cette difficulté hein, à concilier la demande des autorités avec les valeurs d'une profession qu'elles ont choisie et qui, elle, est engagée. Et donc, dans cette ambivalence, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et en tout cas, sur cette période, moi, je peux vous renvoyer à de nombreux écrits qui ont été consacrés. Alors, notamment, je pense aux écrits du groupe de recherche sur l'histoire du service social, le GRESS, qui a un site internet avec de nombreuses publications, ou encore le dictionnaire biographique qui est en ligne sur le site du CEDIAS, qui est une nouvelle initiative, une initiative assez récente et qui retrace des parcours d'assistantes sociales très engagées de l'époque. On en arrive à 44 en décembre, donc l'ANAS est créée et elle vise à réunir et à rassembler les assistants de services sociaux. Rapidement, et sûrement suite à ce qui s'est passé pendant l'occupation, l'ANAS affirme et revendique que l'assistante sociale n'est pas un agent de contrôle de la personne aidée, ce qui ne va pas être si simple par la suite. En 1946, le législateur consacre et protège le titre d'assistant de service social et il va mettre en place deux dispositions qui, à mon avis, illustrent bien le propos de ce soir. C'est-à-dire, d'une part, la loi de 46, elle oblige les professionnels en exercice à s'enregistrer auprès de la préfecture, ce qui est encore le cas aujourd'hui, en cas de besoin. Alors, ça peut être pour des opérations de réquisition ou d'autres choses. Et d'autre part, elle va soumettre l'ensemble des assistants de services sociaux au secret professionnel, qui couvre, du coup, pour le rappeler en cas de besoin, tout ce qui peut être entendu, compris ou déduit par les assistants sociaux. Voilà. Alors, on trouve bien, du coup, les deux dimensions qui se trouvent en tension et qui nous réunissent là ce soir. D'une part, une subordination au pouvoir, hein, et d'autre part, le secret comme condition absolument nécessaire à l'établissement d'une relation de confiance avec les personnes. Donc, après 1946, globalement, les assistantes sociales, elles vont être employées pour des missions de santé publique et de soutien aux familles ou aux travailleurs. On est suite aux ordonnances de 1945. Du coup, les politiques sociales sont vraiment lancées et les politiques de santé publique, l'effort de reconstruction de la France, elles vont largement occuper tout le monde durant des années. Alors pourtant, assez rapidement, les assistantes sociales elles vont se retrouver face à des demandes d'institutions qui souhaitent qu'elles dénoncent notamment les fraudes aux prestations sociales. Le refus des contrôles, il est réitéré à maintes reprises par l'ANAS. Et face à un cadre qui est quand même un petit peu compliqué, il est décidé, pour trouver des repères communs, de créer un code de déontologie qui est adopté en 1950. Et qui précise, que, entre autres, hein, que quand l'assistante sociale constate une infraction à la loi, ben, son devoir, c'est de faire prendre conscience aux personnes qu'ils ont commis une infraction, mais ce n'est pas de son rôle de les dénoncer. Alors, une affaire extrêmement significative de cette période, c'est le 27 mai 1956, au matin, où des assistantes sociales à Alger sont réquisitionnées par le préfet pour procéder à des fouilles dans le cadre d'une opération de police. Alors, certaines refusent, visiblement une minorité, pour les raisons qu'on évoquait juste avant, et puis d'autres acceptent en se disant que finalement, leur aide apportera peut-être plus d'humanité à cette opération de police. Le débat, ben, forcément, divise la profession avec d'autres enjeux de pouvoir qui viennent se télescoper. Finalement, après de nombreuses interventions de l'ANAS auprès du ministère et dans la presse, il y a une circulaire très intéressante, très importante, qui est diffusée aux préfets pour leur donner instruction de ne plus réquisitionner d'assistantes sociales pour des actions similaires, et en rappelant les objectifs de la profession et en considérant que les assistantes sociales ne doivent pas être utilisées à des tâches incompatibles avec leur mission. Alors, je relisais hier le courrier du directeur du cabinet d'Alger et j'avais envie de le partager avec vous, enfin, en tout cas, juste un tout petit paragraphe, parce qu'à mon avis, il éclaire assez bien la situation actuelle. Le directeur de cabinet d'Alger, M. Boulotte, dit « Il me paraît inopportun de les faire participer à des opérations de police, ce qui pourrait rendre délicat, dans l'avenir, l'action de pacification des esprits à laquelle elles sont appelées à coopérer dans une large mesure. » Ça m'a vraiment fait écho avec... l'état un petit peu de la société actuellement, j'y reviendrai après. Alors, c'est donc une lettre circulaire, et du coup, on aurait pu penser qu'avec un tel positionnement, bah, ça aurait sanctuarisé le travail social et ça lui aurait permis d'être protégé d'autres demandes assez saugrenues. Ce fut globalement le cas durant de nombreuses années. Bon, il y a de nombreuses affaires qui ont émaillé la profession jusqu'à la période actuelle. Moi, je voulais faire un focus ensuite sur les dernières années, enfin plus particulièrement la dernière année, 2017, très belle année, puisque l'année commence pour nous, en tout cas sur la question, en octobre, où un groupe d'assistantes sociales du département de l'Essonne contacte l'ANAS pour signaler que le préfet de l'Essonne demande au président du département de procéder à des enquêtes sociales dans le cadre de déclarations de nationalité française à raison du mariage. Donc l'ANAS, qui avait déjà été informée de situations similaires mais n'avait pas forcément eu les documents en temps et en heure pour travailler cette question, décide parce que pour nous, ces affaires-là, elles doivent se régler entre le préfet et le président du département, sans que ça arrive sur le bureau des assistantes sociales. Le président du département devant, selon nous, refuser poliment au préfet de donner suite à sa demande. Et ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Et il y a eu d'autres cas ensuite. Donc l'ANAS, à ce moment-là, décide de produire un communiqué et de mener une action de plaidoyer pour essayer de faire cesser ce type d'action. Donc on sort un communiqué qui s'appelle « Au service social du préfet, volontairement provocateur ». Et là, au contraire de l'affaire d'Alger, on s'attendait à ce qu'il y ait un positionnement assez clair de l'institution, le président du conseil départemental, il démord pas de sa position, voire même illégitime, en disant que c'est très très bien que ce type d'action puisse être menée par les assistantes sociales, qui sont des agents du département. On aura compris la position du département. L'affaire, elle remonte jusqu'au cabinet du ministère et qui nous répond par courrier que ces enquêtes, bah, parfois, elles peuvent faire apparaître des éléments positifs pour les demandeurs. Donc, on aura compris la fin de nos recevoirs. Quelques mois après, donc l'affaire s'arrête là, on a saisi le défenseur des droits et puis aujourd'hui, rien ne bouge de trop. Je pense que tout le monde a un peu peur de bouger le petit doigt. Quelques mois après, même pas un petit mois après, sont publiés les circulaires Collomb, donc qui permettent à des agents de l'OFI et de la préfecture de rendre visite du coup aux personnes accueillies dans les centres d'hébergement pour les aider dans leur démarche d'accès au séjour. Donc la NAS, là, s'associait évidemment au collectif d'associations qui étaient réunis autour de la Fédération des acteurs de la solidarité. Parce qu'il nous semblait que ces dispositions étaient relativement insoutenables. Je vais rappeler, mais ça concerne moins le travail social et en même temps. En janvier dernier, je vais rappeler la tentative du ministère de la Santé et des Solidarités de faire signifier les obligations de quitter le territoire français aux patients hospitalisés sous contrainte en psychiatrie. Et moi, ça me semble important parce que ça finit de clarifier la position d'un pouvoir, finalement, qui est prêt à sacrifier le sanctuaire que peut représenter l'hôpital en tant que lieu de soins plutôt que de contrôle. J'ai bien évidemment pas évoqué l'évaluation des mineurs étrangers non accompagnés, du fichier sol asile et de tout ce dont nous n'avons pas connaissance, mais qui sans nul doute se fait ici et ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de ces éléments ? Eh bien qu'on peut noter un certain renforcement des logiques de contrôle au détriment des personnes accompagnées, qu'à chaque nouvelle mesure qui porte atteinte au travail social, il s'indigne. Il dénonce, il s'insurge, mais finalement, se sent finalement peu reconnu et entendu. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec les mouvements sociaux, où on note un certain affaiblissement des corps intermédiaires lié à une politique de disqualification systématique. Pour moi, le travail social au seul service du contrôle des populations, c'est insoutenable pour la démocratie. Ça ravive bien évidemment des débats qui ont eu lieu suite à mai 68 au sein du travail social, je pense à la revue Esprit, mais ça évoque aussi d'autres littératures comme Foucault ou Orwell à mon avis. Et puis moi je fais souvent le parallèle, assistance sociale c'est secret professionnel, c'est assez pour ça assez facile et évident, mais je fais souvent le parallèle avec d'autres professions qui sont soumises au secret. Et du coup je me demande souvent, est-ce qu'on demanderait à un avocat de contrôler ses clients ? Est-ce qu'on demanderait à un médecin de dénoncer ses patients ? Alors, pourquoi dans le travail social, le secret professionnel, il semble pouvoir être comme ça, à géométrie variable ? Et de quoi, finalement, c'est le symptôme ? Alors, à mon avis, c'est le symptôme d'une société qui ne va pas très bien et qui se cherche. C'est une société qui a du mal à envisager le vivre ensemble comme horizon et qui cherche des responsables désignés. Et moi, je m'inquiète en tout cas que l'époque, elle soit le témoin d'autant de recul de la démocratie. Alors, je ne peux pas me contenter, bien sûr, de dépeindre un tableau dramatique sans chercher des issues et qui nous seraient peut-être plus favorables. La conscientisation, à mon avis, elle ne peut pas suffire à elle-même. Elle ne peut pas suffire à elle-même. Elle doit être vraiment un préalable à l'action. Sinon, on peut vite sombrer dans le pessimisme ou la dépression. Alors, qu'est-ce qu'on peut se donner comme perspective et sur quoi on peut s'appuyer ? Eh bien, à mon avis, il semble d'abord que le travail social, il doit pouvoir s'affirmer ou se réaffirmer dans ses principes et aussi dans ceux du faire société. Un outil qui me semble un outil d'appui, pour ce qu'il vaut, c'est la définition du travail social qui est inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles depuis le 6 mai 2017 et qui peut permettre de préciser ce qu'est le travail social et ce qui n'est pas en s'appuyant sur des textes réglementaires. Donc ça le rend peut-être un petit peu opposable. Je crois aussi que il faut utiliser nos compétences et nos savoirs. Comme on le fait déjà et comme on l'a toujours fait, pour aménager les demandes de l'institution en préservant les personnes, Julia l'a bien montré. Et là, par contre, c'est à chacun de bien s'interroger sur ses possibilités et ses limites. Il y en a certains qui pourront et qui peuvent déjà, à mon avis, se trouver en situation de triche, de mensonge, de désobéissance. C'est pas rare aussi que des personnes arrivent à sortir des documents pour mettre en lumière des pratiques que certaines administrations souhaiteraient voir occultées. Je pense qu'il faut illuminer l'institution par notre inventivité et notre imaginaire, et que ça peut réellement peser dans la balance. Et enfin, face au recul démocratique, moi j'ai grand espoir dans le collectif comme planche de salut. Moi, je crois que c'est une belle preuve ce soir déjà. Les associations, les collectifs, les syndicats ou tout autre type d'organisation support qui permettent de trouver des alliés, des complices et de résister ensemble et collectivement à l'ambiance actuelle. Je pense qu'il faut faire alliance, trouver des points de convergence sur des sujets et les marteler jusqu'à ce qu'on nous donne raison. On le fait déjà ce soir et il faut qu'on puisse le poursuivre ses efforts pour faire vivre un travail social qui soit en mesure de réinventer la démocratie.